Nous sommes là pour parler un petit peu protection des lanceurs d'alerte. Donc, à ma gauche, Virginie Rozière, qui est députée européenne, qui est à l'origine d'un rapport qui a été voté par le Parlement européen, et dont on va parler un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais peut-être un mot ou deux tout de suite pour se présenter, quelque chose d'un petit peu court, comme juste qu'on puisse redémarrer ensuite sur chacune des personnes.
D'abord, merci aux courageux qui sont restés jusqu'à cette heure tardive. Merci beaucoup d'être là. Effectivement, là, on rentre sur un volet peut-être plus juridique, mais qui n'en est pas moins important. Donc, je suis Virginie Rozière, députée européenne du Sud-Ouest, élue sur Montpellier, c'est pas très loin, sur la liste PRGPS. Donc, je suis anciennement membre du Parti radical de gauche et nouvellement membre des radicaux de gauche, donc avec un attachement toujours aussi important à la gauche. Je siège dans le groupe des socialistes et démocrates au Parlement européen et j'ai défendu des propositions pour la protection des lanceurs d'alerte, ce qui nous semblait une nécessité vu le nombre de scandales et le nombre de procès et le nombre de situations de vie brisées pour les lanceurs d'alerte. C'est une responsabilité citoyenne qui se manifeste par la mobilisation de la société civile et nous nous sentons investis de la responsabilité de la porter sur le plan législatif dans l'enceinte européenne.
Donc on y revient bien sûr après. À ma droite, Nicole-Marie Meyer, qui est chez Transparency International, lanceuse d'alerte également, qui a subi les représailles dans un dossier où elle est intervenue, et donc qui a beaucoup participé, notamment à des auditions avec Virginie Rozière dans le cadre de ce rapport européen, mais également sur la constitution de la loi Sapin 2.
Oui, donc moi j'ai perdu mon poste dans la fonction publique en 2004 pour avoir rendu à ma hiérarchie deux rapports confidentiels sur des faits de corruption avérée avec les pièces comptables en attache. Je ne rentrerai pas dans les détails. J'ai en fait perdu mon emploi et ma carrière. La première fois, j'ai été menacée de mort et mutée sur un poste inférieur. Et le deuxième dossier, j'ai été à nouveau mutée sur un poste inférieur. J'ai saisi l'inspection générale et j'ai perdu ma carrière. Donc, comme j'ai été extrêmement surprise que ça puisse arriver en France et dans la fonction publique, comme j'ai réalisé qu'il n'y avait aucune loi qui protégeait un agent public signalant crimes ou délits explicitement, voilà, j'ai fait un procès, j'ai gagné le procès contre l'État en 2007 et 2008, donc j'ai fait jurisprudence en droit public, mais j'ai considéré qu'il y avait un vide démocratique, un vide législatif dramatique, qu'il fallait donc voter une loi pour que plus personne ne vive ça derrière moi. Et à partir de là, je me suis engagée, donc comme tous les lanceurs d'alerte, je me suis retrouvée dans une situation traumatique à mon corps défendant et j'ai voulu en faire quelque chose d'utile. Donc je me suis engagée dans l'idée qu'il fallait créer une coordination d'ONG et de syndicats. On était 8 en 2013, on était 2 en 2009, on était 8 en 2013. On était 18 pour faire voter la loi Sapin en 2016. On est aujourd'hui 21 pour le projet de maison des lanceurs d'alerte. On a écrit une proposition de loi en amont. Ensuite, en 2015, on a travaillé avec le Conseil d'État en 2016. Ensuite, on a fait une pétition en ligne. Enfin bref, on retracera ça. Mais le fait est qu'on a gagné par une construction, par une pression de la société civile et que c'est une victoire de la société civile. On a gagné un des statuts des lanceurs d'alerte qui est les plus avancés au monde, un des quatre meilleurs au monde, même si on peut toujours l'amender. Voilà.
Alors, on y reviendra un petit peu après, bien sûr, dans le détail. Et donc Glenn Milot, qui est coordinateur, c'est ça, chez Sciences Citoyennes. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu vos activités, à la fois aussi bien sur la Maison des lanceurs d'alerte, mais également de Sciences Citoyennes, qui est peut-être un petit peu moins connue que Transparency International ?
D'accord. Donc sur Sciences Citoyennes, je ne vais pas m'étendre très longtemps parce que ça pourrait prendre vraiment beaucoup de temps. Le terrain de l'alerte, c'est un de nos terrains d'action, mais on travaille plus globalement sur la gouvernance de la recherche et des productions scientifiques et technologiques de façon à ce que la société puisse exprimer ses besoins et que la recherche puisse y répondre, et non pas les industriels exclusivement. Si on a été amené à s'intéresser aux lanceurs d'alerte, c'était sur les aspects essentiellement d'alerte scientifique et plus particulièrement sur le terrain santé-environnement. Et depuis, on a été fondé par des lanceurs d'alerte en 2002, entre autres, et depuis le début, on demandait une protection des lanceurs d'alerte. On demandait qu'une loi soit écrite pour protéger les lanceurs d'alerte. jusqu'au Grenelle de l'environnement, où là, on nous a promis une loi. Donc on s'est dit, bon, on a avancé, on a mis 5 ans, mais on a avancé. Mais finalement, pas tant que ça, la loi n'est pas venue. Donc à force d'être frustré, on a fini par l'écrire, cette loi. Et ce qui est devenu, après pas mal de chaos, la loi Blandin. On est rentré en contact donc, avec Transparency International à cette époque-là et on s'est rendu compte que santé environnement, c'était notre terrain, TI, c'était plutôt la corruption. Et que finalement, les mécanismes étaient les mêmes. Donc on a compris qu'il fallait qu'on travaille ensemble sur cette question-là et que finalement, plutôt qu'une approche sectorielle, à l'époque, on était monté à combien 6, 7 lois sectorielles. Il était vraiment fondamental d'avoir une loi globale pour que le lanceur d'alerte sache où aller, sache comment son cas serait traité et puisse avoir un paysage à peu près compréhensible pour instruire son cas. Je ne reviendrai pas sur la maison, on en parlera tout à l'heure, mais effectivement, on s'est aperçu que même malgré tout, même si la loi était parfaite, ce qui n'est vraiment pas le cas, il y a quand même besoin d'un accompagnement, ne serait-ce que pour expliquer pourquoi elle est parfaite, ce n'est pas le cas à nouveau, mais en tout cas pour expliquer quel est le parcours à mettre en œuvre, ou en tout cas le parcours à éviter aussi. Donc cette maison dont on vous parlera tout à l'heure a un rôle d'accompagnement du lanceur d'alerte, mais pas exclusivement. Elle n'existe pas encore, mais le projet est quand même assez mûr et on espère qu'elle verra le jour cette année, peut-être.
Alors, merci pour cette présentation. Merci aussi pour la concision du propos. J'avais une première question qui n'est pas un piège, mais qui me semblait importante, puisqu'on a vu Edward Snowden tout à l'heure. Et donc, vous avez porté un texte au niveau européen. Qu'est-ce qu'on fait au niveau européen pour un Edward Snowden ?
Alors, je ne suis pas sûre que Edward Snowden rentre effectivement dans la portée de ce qu'on peut amener, parce qu'on est sur quelqu'un qui relève avant tout du droit américain. Sans doute que l'Europe se serait grandie en l'accueillant, même certainement. Et ça signe une forme de faiblesse géopolitique de l'Union européenne aujourd'hui. Ce n'est pas par la protection des lanceurs d'alerte qu'on résoudra cette faiblesse-là, parce que si l'Union européenne avait souhaité l'accueillir, elle n'avait pas besoin d'une protection des lanceurs d'alerte pour le faire. Elle avait les moyens de le faire. Non, nous, ce qu'on s'est attaché à faire au Parlement européen, c'est justement essayer de résoudre des difficultés qui s'attachent à la situation des ressortissants de l'Union européenne. Le mandat des institutions européennes qui a commencé en 2014 a été placé sous le signe du scandale des LuxLeaks d'emblée. Et la question de l'évasion fiscale a émaillé toute cette législature et les déboires des lanceurs d'alerte des LuxLeaks aussi. Antoine Deltour, Raphaël Allais, qui se sont trouvés devant les tribunaux luxembourgeois avec le procès en première instance, le procès en appel, la cassation qui a été, l'arrêt qui a été rendu tout dernièrement, qui d'un coup blanchit Antoine Deltour, confirme la condamnation de Raphaël Allais. Bref, on voit bien qu'on est en face d'une situation qui n'est pas normale. Se dire que ce sont ceux qui dénoncent l'évasion fiscale qui sont sur le banc des accusés, et PricewaterhouseCoopers et l'administration luxembourgeoise qui sont les accusateurs, c'est pas normal. C'est pas normal, et on a essayé aussi de prendre la mesure de cette situation, de s'appuyer sur toute la mobilisation, et je voudrais là vraiment remercier les ONG, bien sûr, avec lesquelles on a énormément travaillé et qui ont été l'apport pour nous a été extrêmement précieux, mais aussi la mobilisation citoyenne, parce que notre capacité d'action en tant que parlementaire est vraiment n'existe qu'en continuité de cette mobilisation-là. On se doit d'y répondre, mais c'est vraiment quelque chose de complémentaire. Et donc l'idée, ça a été de dire, essayons d'apporter des solutions, exigeons des solutions pour faire en sorte que des cas comme cela ne se reproduisent pas. On a trop de vies brisées par le courage de ces citoyens qui s'engagent et qui en subissent des conséquences qui sont difficilement imaginables quand on n'est pas confronté à ces situations réelles.
Alors, on reviendra tout à l'heure. On va peut-être essayer de faire premièrement un point sur cette loi Sapin, qui est donc une loi toujours présentée comme une loi de protection et donc, comme vous le disiez, Nicole Marie-Meyer, une des meilleures lois pour la protection des lanceurs d'alerte. Alors, peut-être pas dans tout le détail, parce que sinon, je pense qu'on va manger tout notre temps de parole, mais les grandes mesures, à la fois sur peut-être la définition, peut-être dans un deuxième temps, la procédure et le cheminement de l'alerte, Et je crois, parce que là, il y a une véritable modification, ce qui est prévu d'un point de vue des sanctions en cas d'entrave, parce que je crois que c'est vraiment un des éléments importants. Donc peut-être pour que tout le monde ait un petit peu, puis les sources, enfin les endroits où on peut aller chercher vraiment l'information, et notamment la plaquette que vous avez rédigée.
Alors on a été très conscients, je veux dire, c'est une loi qui a été votée le 9 décembre 2016, et qui est entrée en vigueur, contrairement à ce qu'on entend par le 9 décembre 2016. Et ce qui est toujours assez triste et inquiétant, c'est que les gens ne savent pas, si vous voulez, ne connaissent pas nécessairement la loi et qu'ils ne se saisissent pas de leurs droits. Et c'est pour ça qu'on a fait cet outil, c'est-à-dire le guide pratique à l'usage du lanceur d'alerte. C'est effectivement un outil, c'est gratuit en ligne, donc vous pouvez le consulter quand vous voulez, de façon à savoir si vous devez lancer une alerte, si vous voulez lancer une alerte, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous ne devez pas faire, les législations en vigueur, tant au plan international, mais ratifiées par la France, les jurisprudences, etc. Donc, c'est vraiment le panorama qui vous permet de vous dire, voilà, moi, je prends ce risque ou pas, et voilà le chemin que je vais prendre. Voilà. Donc ça, c'était pour dire qu'il y a un outil citoyen qu'on a mis en ligne. Alors, les grands apports de la loi Sapin 2, c'est effectivement une définition qui est la définition, pour le moment, la plus ouverte au monde. Parce que généralement, vous avez une liste. Ça peut aller de 6 à 18 signalements protégés en Jamaïque. C'est une législation... Je veux dire, on légifère sur le droit d'alerte depuis à peu près 50 ans. Hein. Les Européens s'y sont mis très tard, c'est-à-dire à partir des années 2009. Voilà. Donc, simplement, vous avez soit une définition qui est une liste, soit le Conseil de l'Europe avait dit en 2014, parce que le Conseil de l'Europe, qui est très décrié, a été incroyablement pionnier dans ce domaine-là. Donc, il avait dit « menace ou préjudice pour l'intérêt général ». Voilà, toute personne qui signale ou révèle une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, et ça a le grand avantage d'inclure l'optimisation fiscale agressive, les risques santé, sécurité, environnement, tout ce qui est dans cette zone grise qu'on ne connaît pas encore, parce qu'avant qu'Antoine Deltour nous parle des rescrits fiscaux, qui connaissait les rescrits fiscaux ? Personne. Donc il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vues. Donc tout ce que la société n'a pas encore vu comme menace grave pour l'intérêt général ou préjudice, c'est dans cette formule. Donc la loi française reprend, la définition française reprend cela, c'est-à-dire que c'est toute personne qui signale ou révèle, en gros, une violation de la loi nationale ou internationale, si elle est ratifiée par la France, et toute menace ou préjudice grave pour l'intérêt général. Voilà. Et ça sort du cadre du travail. Toutes les lois dans le monde jusqu'à présent ne protégeaient que les salariés, même avec les anciens, les volontaires, les bénévoles, les bons, etc. Donc là, vous sortez du cadre du travail, ce qui est une nouveauté, et vous avez menace ou préjudice pour l'intérêt général. Donc, la définition. Vous avez une autorité indépendante qui est le défenseur des droits, qui est chargé de veiller à l'orientation, mais aux droits et libertés, c'est-à-dire d'orienter et de protéger les lanceurs d'alerte. C'est l'autorité la plus haute, elle est constitutionnelle, elle est avec une loi organique, c'est l'autorité la plus haute, et elle a le pouvoir d'investigation, le secret de l'enquête et de l'instruction ne peut lui être opposé, elle peut demander la production de toute pièce et elle peut offrir une médiation, donc une autorité indépendante, une irresponsabilité pénale. Vous ne pouvez pas être poursuivi au pénal, je veux dire, ni au civil, ni avoir de sanctions de toutes sortes. Si vous révélez un secret protégé, du genre secret professionnel ou bientôt le secret des affaires, à partir du moment où vous le faites de façon nécessaire et proportionnée, c'est-à-dire vous livrez des éléments nécessaires à l'alerte, vous ne balancez pas tous les secrets d'affaires de votre entreprise en dehors de l'alerte elle-même. Voilà. En revanche, il y a trois secrets exclus, c'est le secret médical, donc le secret du dossier médical, le secret médical, le secret de la relation avocat-client, et le secret défense, mais il faut savoir que la France a une loi particulière pour les services de renseignement avec un corps particulier, donc une procédure particulière. C'est la seule loi qui n'est pas dans le statut global pour le public et le privé. Vous avez la défense. Qui est voilà. Donc ça, c'est l'irresponsabilité pénale, ce qui est quand même important. Vous avez une protection contre toute mesure de rétorsion ou de représailles, que vous soyez salarié ou non, avec pour les salariés la réintégration, s'ils le veulent, dans l'emploi. Et il y a un article également pour la fonction publique. Et le fait qu'on va vous payer votre salaire du jour du licenciement au jour de votre réintégration, et il y a déjà eu deux jurisprudences en 2016 de ce type pour deux personnes en fait qu'on suivait à Transparency depuis quelques années. Et sixième mesure, des sanctions civiles et pénales. Alors, 2 ans de prison et 30 000 euros si vous révélez l'identité du lanceur d'alerte ou les informations communiquées. Vous avez des dispositifs d'alerte obligatoires pour le public et le privé à partir de 50 personnes, pour les régions, pour les départements, pour tout le monde, à partir du 1er janvier 2018, qui doivent être totalement sécurisés, accessibles. Mais si quelqu'un qui reçoit votre alerte la divulgue, il a 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende, contre votre volonté, hein, je veux dire, contre la volonté du lanceur d'alerte. Donc ça, c'est pour le protéger. Vous avez 1 an de prison et 15 000 euros pour toute entrave de quelque ordre que ce soit au signalement. Et vous avez le doublement des amendes civiles en cas de procédure abusive en diffamation, ce qu'on appelle les procédures bâillons. Voilà. Donc, bien évidemment, on peut amender cela, mais c'est un des 4 meilleurs statuts avec l'Angleterre, l'Irlande et la Serbie.
Alors, merci en tous les cas pour cette présentation précise. Glenn Milo, vous, votre vision de cette loi de protection des lanceurs d'alerte, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait peut-être des commentaires à apporter, des choses qui pourraient évoluer. Quel est votre sentiment ?
Alors, pour quelques éléments d'historique, c'est qu'on a travaillé donc avec Transparency International et Anticor sur la production de ce qui a été ensuite injecté en partie, en tout cas dans la loi Sapin 2. Et c'est aussi parce que ça a été injecté en partie qu'on est mécontent de certains aspects de cette loi. Donc je vais jouer le rôle du méchant maintenant, après. Donc je vais prendre les choses dans l'ordre. C'est-à-dire que pour nous,
à la fois, on ne joue pas vraiment un rôle, on dit.
Non, voilà, non, c'est tout à fait sincère. Et je vais vous l'exposer. En fait, pour nous, on regrette que la tension se concentre quasi exclusivement sur la protection, alors qu'il y a deux autres dimensions qui nous paraissent très importantes, deux autres composantes qui nous paraissent très importantes dans l'alerte. C'est le recueil de l'alerte et le traitement de l'alerte, donc l'amont et l'aval. Concernant le recueil de l'alerte, comme l'a dit Nicole-Marie Meyer, les entreprises sont, depuis le 1er janvier, les entreprises de plus de 50 salariés, les administrations, les collectivités territoriales de plus de 10 000 habitants doivent disposer d'un référent qui sera en charge de recueillir l'alerte. Il y a deux problèmes à ça, c'est-à-dire que les entreprises de moins de 50 salariés représentent la majeure partie des salariés en France, et d'autre part, on n'a pas vraiment de garantie de l'indépendance ou de la probité du référent qui sera désigné. Donc c'est deux problèmes qui peuvent être assez cruciaux pour lancer l'alerte. C'est pour ça que nous, on voulait que le défenseur des droits ait un peu plus de pouvoir d'instruction de l'alerte. C'est-à-dire que là, il intervient uniquement sur le terrain de la discrimination. C'est-à-dire qu'il va intervenir sur les représailles que subira le lanceur d'alerte, mais pas sur l'alerte lui-même, pas sur l'alerte elle-même, ce qui pour nous pose un problème. Donc on a appelé de nos voeux et on a eu un plutôt bon accueil au départ sur le rôle du défenseur des droits. Lui était plutôt timoré parce qu'avoir plus de prérogatives à moyen constant, c'est toujours un problème pour n'importe quelle structure. Donc il n'a pas fait un appel du pied pour avoir plus de pouvoir à ce niveau-là. Donc ça, c'est la question de l'interlocuteur, c'est assez crucial. Donc on recommanderait qu'il y ait des instances intermédiaires, si ce n'est pas le défenseur des droits, qui puissent mutualiser ce rôle de référent. Après, ça n'empêche pas qu'on n'a pas résolu le problème de la garantie de l'indépendance de ce référent et de la confidentialité des informations dont il disposera. D'autre part, il y a la question de la nature du lanceur d'alerte, et là on a des points de divergence dont on va discuter probablement. Nous, on a été très contents et on a milité pour qu'enfin on sorte du cadre strict du travail, puisque jusqu'à présent, et encore un peu partout, enfin, encore partout ailleurs, les lois alertes ne concernent que les salariés ou assimilés salariés. Donc quelqu'un qui serait au courant, par exemple, d'une pollution d'une usine ne pourrait pas être considéré comme un lanceur d'alerte, à moins qu'il travaille dedans, ce qui est un peu aberrant. Parce que s'il y a une alerte, peu importe la nature de la personne qui lance l'alerte, l'alerte doit pouvoir être lancée. Du coup, en démêlant la pelote, sur le principe qu'une alerte doit pouvoir être lancée quelle que soit la nature du lanceur d'alerte, pour nous, il paraissait important que les personnes morales aussi puissent être lanceurs d'alerte. Donc associations, syndicats, n'importe quelle personne morale qui serait dépositaire d'un signalement. Une troisième notion importante, et sur laquelle on a encore un désaccord, c'est la question de la bonne foi. Dans l'ensemble des lois, sauf au Royaume-Uni et en Irlande, le lanceur d'alerte doit être de bonne foi. En France, c'est pire, il doit être de bonne foi et agir de manière désintéressée. Ça veut dire qu'un militant d'office, il est exclu, puisqu'il n'agit pas de manière désintéressée, il agit pour sa cause. Donc la question de la bonne foi, en Angleterre, ils se sont rendus compte que ça crée un obstacle sérieux, c'est-à-dire que lors des procès, l'attaque se focalisait sur justement cette bonne foi du lanceur d'alerte et presque plus sur l'alerte. Du coup, ils ont changé leur fusil d'épaule quelques années après la PIDA de 98. Ils ont gardé la notion de bonne foi pour calculer les indemnités. C'est-à-dire qu'un lanceur d'alerte de mauvaise foi recevrait moins d'indemnités qu'un lanceur d'alerte de bonne foi. Mais par contre, ce n'est plus une condition requise pour pouvoir lancer l'alerte, ce qui nous paraît indispensable. S'il y a une alerte, il faut la traiter, quelle que soit la source, quel que soit le dépositaire de cette alerte. Sur l'aspect protection, juste un tout petit point qu'on avait évoqué au niveau du Conseil d'État, mais qui n'a pas semblé attirer vraiment. Enfin, on les a pas convaincus. Quand on est fonctionnaire, on a droit à la protection fonctionnelle. C'est-à-dire que l'État peut prendre en charge les frais de justice, ce qui pour un fonctionnaire est très primordial, puisqu'il sert l'État. Mais un lanceur d'alerte qui travaille, qui œuvre pour l'intérêt général, on considérait qu'il pouvait à ce moment-là être assimilé à un travail de service de type service public et devrait pouvoir profiter d'une sorte de protection fonctionnelle de la même façon. Ça n'a pas été retenu, c'est dommage. Donc j'insisterai pas plus sur la protection, Nicole en a parlé beaucoup, et c'est vrai qu'on a beaucoup avancé sur la question. Et la jurisprudence citée par Nicole était même antérieure, elle avait anticipé la loi Sapin. Donc ça veut dire que le terrain est propice à une bonne application, enfin un bon développement de la jurisprudence en termes de protection. Maintenant, concernant le traitement, alors là c'est vraiment le parent pauvre de toutes les lois alertes. C'est-à-dire que on a vu le lanceur d'alerte, on a établi plus ou moins des processus, des procédures de signalement, de recueil des signalements plus ou moins solides. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de l'alerte ? Le plus souvent, on ne sait pas. C'est-à-dire que la loi Sapin ne prévoit rien du tout sur le traitement de l'alerte. Le suivi de l'alerte, le traitement de l'alerte, ça reste encore une énigme. Donc pour nous, il paraîtrait important de pouvoir avoir dans la loi un ensemble de procédures. Je ne dis pas une procédure unifiée, parce que les cas sont très différents. Un crime économique, une affaire de corruption, un problème sanitaire, ou un problème ne serait-ce que d'éthique sur des questions. Je prends un exemple d'un des fondateurs de notre organisation qui s'appelle Jacques Testard. Lui, il lance l'alerte sur les risques eugéniques liés au tri sélectif des embryons. Il n'y a pas de crime, il n'y a pas de délit, il n'y a rien. Il y a l'intérêt général, il y a aussi l'intérêt des parents. Enfin bon, bref, c'est des terrains très, très controversés. Et dans ces cas-là, ça nécessiterait des procédures probablement spécifiques. Donc, quoi qu'il en soit, il nous paraît important de définir un certain nombre de procédures en fonction des cas, des types de cas qui auraient été identifiés pour assurer un traitement et un suivi de l'alerte. Pour revenir sur le cas des alertes scientifiques, on se retrouve avec expertise contre contre-expertise. Et la plupart du temps, les expertises sont majoritaires et beaucoup d'expertises sont payées par les industriels, ce qui pose la question de l'indépendance de l'expertise, du biais qu'il peut y avoir sur l'expertise. Donc d'une part, nous, ce qu'on réclamerait par rapport à ça, c'est vraiment une culture de l'expertise plurielle, qu'on entende expertise et contre-expertise, et pas seulement celle financée par les industriels. Et justement, si l'expertise est financée par les industriels, c'est que l'État ne veut pas les financer. Donc il nous paraîtrait nécessaire que l'État fasse un effort financier pour financer des contre-expertises ou complète les expertises en cours.
Alors je vais peut-être répondre, je vais répondre tout de suite sur certains points qui sont importants, effectivement. Alors, déjà, le problème du référent et du dispositif d'alerte. Le dispositif d'alerte qui est mis en place, il est facultatif, il est obligatoire pour l'employeur, il doit être sécurisé totalement avec les peines de prison, etc., pour la confidentialité, mais je veux dire que le salarié, puisque ça c'est effectivement pour le monde du travail, mais aussi pour les collaborateurs externes, les fournisseurs, les prestataires de services, enfin bon. Donc c'est sur Internet, tout le monde doit pouvoir le saisir, même de l'extérieur. Donc, Ce dispositif d'alerte sécurisé, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que dans le canal qui est mis en place par la loi Sapin, pour le canal interne, vous pouvez saisir tout supérieur hiérarchique, direct ou indirect, c'est-à-dire pas le N+1 ou le N+2, qui sont soit incompétents parce qu'ils n'ont rien vu, soit coupables puisqu'ils ont participé au crime. Donc vous avez déjà le choix multiple. Vous avez ensuite le référent du dispositif d'alerte où vous avez l'employeur, mais le référent du dispositif d'alerte, ça c'est quand même quelque chose que j'ai le sentiment qu'il y a eu une forme d'incompréhension. C'est une personne, ça peut être un référent externe ou interne, c'est une personne physique ou toute entité de droit public ou de droit privé, dotée ou non de la personne morale. Ça peut être un collège, ça peut être un comité, ça peut être un prestataire de service, ça peut être un avocat, ça peut être une ONG, ça peut être les IRP, ça peut être un syndicat. Donc je veux dire, le référent est choisi, le référent peut être aussi une personne morale ou une personne physique, externe ou interne. Il doit être doté de la compétence, de l'autorité et des moyens suffisants, et il doit être indépendant. Donc bien sûr, on verra on verra à l'exercice.
Alors, ce que ça donnera. Glenn Milon, mais il y a faire quand même une remarque là.
Je voulais réagir.
C'était sur le terme. Il doit être choisi. C'est un peu le problème, c'est que ce choix est fait par l'employeur.
Oui, en concertation avec les syndicats, parce qu'il y a maintenant trois dispositifs obligatoires, dont le dispositif risque, qui a été mis en place par la loi devoir de vigilance, et c'est fait en concertation avec toutes les parties prenantes, le comité d'entreprise et les syndicats. Donc, je veux dire, en amont, il est décidé ensemble. Donc, alors, vous voyez, c'est quand même pas... Pardon, je vais finir sur la bonne foi.
Non, mais juste parce qu'il y a ensuite...
Il y a d'autres choses.
Il faut quand même qu'on
pose... La bonne foi, c'est quelque chose d'important. La bonne foi, c'est quelque chose d'important, mais en France et dans la jurisprudence française, ça veut simplement dire... que vous croyez que les faits sont vrais au moment où vous le dites. Ça ne veut rien dire sur la motivation. Enfin, les jurisprudences sur la bonne foi qu'on a, c'est ça. Et si les Anglais ou les Irlandais n'ont pas voulu prendre la bonne foi, c'est parce que chez eux, ça veut dire sonder les reins et le cœur de la personne et donc demander ses motivations. Donc, c'est vrai que si on fait une directive, si vous voulez, où il va y avoir des gens pour qui c'est simplement dire la vérité, et je veux dire, lancer l'alerte, c'est pas raconter n'importe quoi, c'est pas lancer des accusations ou des allégations, c'est la liberté de dire la vérité, qui est un des piliers de la démocratie depuis la démocratie grecque. Mais on est sur le principe de vérité, je veux dire, et ça, c'est vraiment important. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, si on traduit en anglais, enfin dans le contexte anglo-saxon, ils vont prendre la croyance raisonnable que les faits sont vrais au moment de l'énoncer. Ça s'appelle « the reasonable belief ». Donc le problème pour nous, c'est de garder l'idée que l'on dit la vérité et pas n'importe quoi, qu'on l'exprime sous le nom de bonne foi ou qu'on l'exprime sous « reasonable belief ». Voilà.
Alors, juste peut-être une incise de ma part, la première des protections du lancement de l'alerte, je pense qu'on sera tous les quatre d'accord, c'est la qualité de la preuve. La première des protections, c'est la qualité de la preuve. Donc j'attire un petit peu l'attention de tout le monde sur ce sujet-là, parce que quelquefois, on a un peu tendance à oublier que la preuve, c'est quelque chose de matériel, de vérifiable, qui peut être coupé, etc. Alors, sur cette histoire de bonne foi, donc, je fais la promotion de ce livre qui me semble être un recueil, la protection des lanceurs d'alerte par la jurisprudence, qui n'est pas du tout, comme on pourrait le croire, un livre uniquement à destination des juristes. C'est vraiment très, très accessible au niveau de l'écriture. Ça a été fait par un avocat qui s'appelle Gilles Devers, et donc il y a un petit abécédaire à la fin sur la présomption de bonne foi du lanceur d'alerte. Donc je la lis parce que ça me permet de vous interroger, Virginie Rosière. Le juge doit garder à l'esprit le principe établi dans la résolution de l'Assemblée parlementaire sur la protection des donneurs d'alerte, selon lequel, entre guillemets, tout donneur d'alerte doit être considéré comme agissant de bonne foi, sous réserve qu'il ait des motifs raisonnables de penser que l'information divulguée était vraie. Et donc, je voulais poser une question. Est-ce que le fait d'affirmer, déjà dans la loi Blandin, déjà dans la loi de 2013, on disait c'est une personne de bonne foi, c'est-à-dire qu'on affichait cette nécessité, j'allais dire cette obligation. La question, c'est comment vous avez apprécié ça dans ce travail parlementaire européen. On en a parlé tout à l'heure et je crois que vous avez une appréciation là-dessus et à la fois sur le caractère des intéressés.
Alors, ça rejoint un petit peu ce que soulignait Madame Meyer, c'est que la notion de bonne foi, selon comment on la traduit, elle n'a pas la même, ne revêt pas la même importance, pas le même sens dans les différents régimes juridiques des États membres de l'Union européenne. En droit français, c'est à peu près clair et c'est à peu près ce qui a été dit, c'est-à-dire c'est je crois ce que je dis, je suis convaincu de ce que je dis, je pense que c'est vrai. Dans le droit anglo-saxon, c'est est-ce que je suis quelqu'un de moralement estimable, ce qui est vraiment quelque chose de tout à fait différent. Ça rejoint le côté désintéressé. Là, pour le coup, c'est quelque chose qui est très dangereux du point de vue de la protection des lanceurs d'alerte, parce que si on veut aller sonder les motivations, le pourquoi du comment, on peut toujours ouvrir une brèche. Et en fait, on est parti, dans le rapport sur la protection des lanceurs d'alerte, on a essayé d'inverser la logique. On s'est dit, prenons des cas de lanceurs d'alerte et essayons de voir les difficultés, les épreuves auxquelles les lanceurs d'alerte sont confrontés, et comment est-ce qu'on peut les aider à y faire face. Comment est-ce qu'on peut minimiser l'impact des pressions extérieures, de quelque nature qu'elles soient, qui s'exercent sur les lanceurs d'alerte ? La première, c'est effectivement qu'un lanceur d'alerte va tout de suite être mis en cause, va tout de suite être accusé, pointé du doigt. On va aller, on va essayer de déplacer le champ de l'attention des faits qui sont dénoncés, qui est l'alerte en elle-même, vers la personne, quitte à, justement, de manière aussi à essayer d'occulter les faits. Et donc, déjà dans la définition, nous avons voulu partir non pas de la définition du lanceur d'alerte, mais de la définition de l'alerte. Qu'est-ce qu'une alerte éthique et responsable? Qu'est-ce qu'une alerte légitime? Qu'est-ce qui fait la différence, justement, entre ce qu'on pourrait qualifier d'alerte et puis des révélations de faits confidentiels, sans que ça revête pour autant la dimension d'alerte, ou de la diffamation ou de la calomnie? Et donc, une alerte, c'est... On est reparti, effectivement, de la définition du Conseil de l'Europe, cette notion d'atteinte de risques ou menaces pour l'intérêt général. Et on a aussi on a essayé de combiner les approches. L'approche conceptuelle globale, donc sur l'intérêt général, en lui donnant une dimension européenne, et lister les différents types d'atteintes qui pouvaient tomber, qui pouvaient rentrer justement dans cette définition d'alerte, sans que cette liste soit limitative. Donc vous avez la corruption, le blanchiment, l'excès de pouvoir, l'atteinte à l'environnement, à la santé publique, à la protection des consommateurs, à la sécurité. Donc, j'en oublie sûrement, hein, dans l'eau, on a une liste assez longue. Donc, mais vraiment, on a voulu partir des faits et revenir justement sur qu'est-ce que c'est un lanceur d'alerte. C'est quelqu'un qui révèle des faits, des agissements. Et donc, replaçons ça au centre de la discussion. Et essayons de protéger la personne parce que justement, la réaction en défense des organisations qui sont mises en cause, c'est d'aller attaquer la personne. Et donc, on a voulu juste éviter d'ouvrir des brèches qui permettent de mettre en cause la personne. C'est pour ça qu'on a évacué la question de la bonne foi, plus pour les risques que ça porte sur le droit anglo-saxon que sur le droit français, et qu'on a totalement voulu évacuer la question du désintéressement ou des motivations. Si les faits sont avérés et qu'ils représentent une atteinte à l'intérêt général, alors c'est une alerte, alors c'est un lanceur d'alerte. Et ça a été l'objet de débats avec d'autres sensibilités politiques plus à droite de l'échiquier qui voulaient justement aller chercher les motivations, le pourquoi du comment et aller remettre la focalisation sur la personne. On a eu gain de cause et je pense que c'est heureux parce que c'est une manière, un premier niveau de protection justement de la personne en essayant de focaliser les choses sur les faits. Là où on a essayé de reprendre cette notion de bonne foi pour ce qu'elle apporte, c'est qu'on a indiqué que dans le cas d'atteinte non avérée, il fallait quand même que le lanceur d'alerte, s'il croyait vraiment à ce qu'il a dénoncé, il doit être aussi protégé. C'est-à-dire que si lui était convaincu de la réalité de ce qu'il a dénoncé, même si ça n'est pas avéré, à partir du moment où il l'a fait en étant lui-même convaincu, ce qui en français effectivement relève de la bonne foi, là, à ce moment-là, il doit continuer à bénéficier de cette protection. Mais on a utilisé des périphrases pour couvrir cette situation. Donc ça, c'est vraiment autour de la définition et justement de comment essayer de caractériser les situations qu'on veut traiter.
C'est-à-dire que, grossièrement, j'essaye de retraduire, en tous les cas, dans un français que moi j'arrive à percevoir.
Dites que je ne suis pas clair.
Non, c'est que je suis du CE2, CM1, moi, je l'ai dit tout à l'heure. Non, ça veut dire que, grossièrement, en cas d'erreur d'appréciation du lanceur d'alerte sur les faits et sur l'appréciation des faits, il peut s'exonérer d'une imputation de diffamation, etc., en démontrant
qu'il avait toutes les raisons de
croire à la véracité. Donc par raccourci qu'il était de bonne foi, mais qu'il avait toutes les raisons de penser que cette information était fiable et que les risques dont il a pensé qu'ils étaient avérés, pouvaient l'être en fonction de son analyse.
Était convaincu de ce qu'il disait. Quoi.
Voilà, d'accord.
C'est clair comme ça, non ?
Oui, non, mais je préférais, parce que je ne sais pas, des fois, on part un petit peu et bon, voilà.
Non, il y croyait vraiment, voilà. Et après, se pose la question de la protection, donc pour mettre ça un peu... Voilà, je ne vais pas me poser en arbitre du débat entre savoir est-ce que la loi Sapin 2 suffit ou ne suffit pas. On a essayé d'aller le plus loin possible parce que le rapport que j'ai défendu et que nous avons adopté donc au Parlement européen est une forme d'injonction à la Commission européenne pour qu'elle propose une loi effective. C'est notre lettre de commande, donc on a essayé que notre lettre au Père Noël soit la plus complète et la plus ambitieuse possible parce qu'après, on se confronte, le Parlement européen d'un côté se confronte aux États membres et qui sont souvent dans un double discours et pas forcément toujours très allants pour qu'on avance au niveau européen sur la protection des lanceurs d'alerte. Même si ça a été la Le premier objectif de ce rapport, ça a été de dire qu'on voulait une protection, qu'on voulait une protection horizontale. On a vraiment, là au-dessus, je pense que tous les avis sont partagés. Les protections sectorielles, en fait, sont intéressantes, mais beaucoup trop limitées. Et on voit bien qu'on a un parallèle dans les problématiques, dans les difficultés qu'on doit avoir. On doit reconnaître la légitimité de l'alerte, quel que soit le domaine concerné. Et qu'on voulait une protection législative, c'est-à-dire contraignante, et qu'on ne voulait pas se satisfaire simplement de bonnes pratiques, de recommandations, de vœux pieux, en fait. Donc ça, c'est la première commande, c'est on veut quelque chose de réellement protecteur parce que c'est réellement contraignant sur les États membres. Et après, ben, on a essayé de voir quelles étaient les difficultés, quelles étaient les pressions, les épreuves, les attaques que subissaient les lanceurs d'alerte, et effectivement, ils sont de deux ordres, ça a été dit. D'un côté, la relation économique, pas que professionnelle, c'est-à-dire qu'on a la relation employeur-salarié, mais on a aussi des relations fournisseurs-sous-traitants, donneurs d'ordre, consultants, prestataires, expertise externe. Et donc, on voit bien qu'on a des moyens de pression sur le champ économique qui sont qui peuvent se retrouver avec différentes combinaisons. Et on a demandé cette même logique que les représailles soient pénalement répréhensibles, donc condamnées, sanctionnées et intégralement réparées. Auprès du lanceur d'alerte si effectivement il est prouvé qu'il y a représailles, donc sur ce champ économique. Et le deuxième volet de protection, c'est le volet juridique, donc en affirmant la légitimité supérieure de l'alerte, c'est-à-dire du fait de révéler des informations sur des obligations de confidentialité qui pourraient venir soit de lois qui imposent la confidentialité dans certains domaines, vous avez parlé du secret des affaires, ça en fait partie, ou alors d'obligations de confidentialité qui pourraient venir d'un contrat de travail qui impose des clauses de confidentialité. Dire dans ces cas-là, l'alerte, elle est de toute façon légitime à partir du moment où, bien sûr, on est bien dans une alerte, c'est-à-dire une atteinte à l'intérêt général. Donc ça, c'est la protection sur le champ juridique avec cette prise en compte du caractère, on va dire, de cette solitude du lanceur d'alerte, de sa fragilité en face d'organisations qui, elles, ont les moyens d'engager énormément de procédures judiciaires et de faire rentrer les lanceurs d'alerte dans de véritables marathons judiciaires, donc avec une assistance juridique et, le cas échéant, une assistance financière, parce qu'on a trop souvent des situations où vous avez des lanceurs d'alerte qui perdent tout, qui se retrouvent sans aucun moyen, avec des dettes colossales qui s'accumulent simplement pour faire face aux frais de justice. Donc ça, c'est vraiment les deux volets de protection. Ce qu'il y a, là où on a une divergence importante, vous n'en avez pas trop parlé, mais avec la loi Sapin 2, qui a été un vrai sujet de controverse, un vrai sujet de clivage avec nos collègues de droite, c'est, OK, on a défini l'alerte, on a défini la protection, mais c'est quoi les canaux pour lancer l'alerte? Qu'est-ce qui est légitime? Comment est-ce qu'on... Alors, vous avez parlé des référents, la mise en place de référents, c'est quelque chose qu'on demande aussi. Mais après beaucoup de discussions, on a pris le parti d'être le plus ambitieux possible, c'est-à-dire de dire le signalement interne, c'est bien, il faut le promouvoir, il faut mettre en place des moyens de signalement interne, parce que ça a le mérite de la proximité, de la facilité, mais on doit aussi admettre et encourager, au moins légitimer et accepter le signalement au public via les médias. Et ça, la droite européenne voulait vraiment qu'on fasse tomber la protection des lanceurs d'alerte en cas de signalement dans les médias sans avoir respecté ce signalement par palier. Dans la loi Sapin 2, c'est ce qui existe aujourd'hui, sauf dans certains cas bien particuliers, bien définis. Voilà. Moi, je trouve que la loi Sapin 2, c'est une belle avancée. On peut toujours considérer qu'elle ne va pas assez loin. Moi, je vous dis, je suis assez, en tant que Française sur la scène européenne, je suis assez fière qu'on fasse partie des 6 pays qui ont une protection des lanceurs d'alerte, pour imparfaite qu'elle soit, et puis qui va à un niveau relativement important et intéressant. Mais nous, on a voulu vraiment marquer cette possibilité de lancer l'alerte dans les médias sans établir de hiérarchie, parce qu'on sait bien que les cas les plus urgents, les cas les plus critiques, les cas les plus dramatiques, en fait, sont ceux pour lesquels l'alerte interne ne peut pas marcher. C'est parce que quand on est dans des faits d'une telle gravité que l'organisation dans son ensemble est mise en cause, à ce moment-là, vous n'avez pas d'autre choix que d'aller dans les médias, et ce sont en général les cas les plus graves. Donc on se doit dans ces cas-là aussi de faire bénéficier les lanceurs d'alerte d'une protection. Ça a été une vraie bataille politique qu'on a remportée, et ça est aussi le fruit de la mobilisation des ONG et de la société civile qui nous a donné, on va dire, l'élan politique pour arriver à ce résultat.
Avec trois avancées par rapport à la loi française, effectivement, c'est que nous avions obtenu de l'Assemblée nationale l'avance des frais de justice et le soutien financier en cas de besoin. Et je peux en parler, puisque moi, je me suis retrouvée aux minima sociaux pendant quelques années avant de réussir à reconstruire ma vie. Donc, je vois très bien qu'il y a un moment où on peut se demander jusqu'où va tomber la déchéance sociale. Enfin, il y a quand même... Bon, vous avez entendu suffisamment de témoignages pour savoir ce que ça veut dire. Donc, on avait fait passer ça, mais le Conseil constitutionnel l'a fait tomber. C'est la seule chose. Je veux dire, la définition a été attaquée. Enfin, beaucoup de choses ont été attaquées. On a failli perdre beaucoup. On a gardé l'ensemble des choses, mais on a perdu l'avance des frais de procédure et le soutien en fait, financier aux victimes. Sur la base, qui est une base qu'on peut comprendre, et c'est pour ça qu'on s'est dit que la Maison des lanceurs d'alerte allait relayer ça, c'est que le défenseur des droits a en fait 5 secteurs de compétences et 5 types de victimes, entre guillemets, si vous voulez. Donc pourquoi aider et privilégier un type de victime plutôt que les 4 autres? Enfin bon, ça c'est... Je ferme la parenthèse. Il y a une chose aussi qui est assez formidable dans ce rapport qui pousse la Commission européenne, c'est que par exemple, pour toutes les clauses de confidentialité et de secret, vous avez, si une entreprise fait signer une transaction... Comme on l'avait fait faire à Raphaël Allais dans LuxLeaks, hein, si une entreprise fait signer une clause de confidentialité, une transaction sur vous vous taisez ou bien on hypothèque votre maison et on vous demande 10 millions, etc. Enfin, vous vous taisez
et on hypothèque et, votre maison.
Oui, on est d'accord.
C'est encore pire.
Oui. Mais oui, mais on n'ira pas au pénal et ils sont allés au pénal. Bon, peu importe. Mais le fait est que là, dans le rapport, il y a des poursuites pénales. Donc, c'est criminalisé. Donc, ça, c'est important. Alors, je vais répondre sur le problème. On est toujours dans des interprétations. Les mots ont un sens dans chaque pays et dans chaque système juridique. Pourquoi est-ce que nous, on a voulu, de manière désintéressée? C'est parce qu'il y a deux modèles, je dirais, aujourd'hui, de protection des lanceurs d'alerte dans le monde. Il y a en gros le modèle américain qui est bâti sur la récompense. Et en fait, c'est le souvenir du chasseur de primes qui était vous aviez le shérif blanc et le shérif noir, donc vous aviez en fait à la base, au départ aussi, le fait de, c'est l'informateur qu'on payait. Et vous voyez bien que c'est pas du tout la même chose que la défense des lanceurs d'alerte qui est venue des droits de l'homme et de la défense de l'intérêt général. On parle de deux cultures différentes qui ont fusionné aux États-Unis. Et donc aux États-Unis, vous avez la rémunération au pourcentage, mais de façon très élitaire. À partir du moment où vous apportez 1 million de dollars au trésor public, vous commencez à avoir 30% ou 10% si vous n'êtes pas. Donc on est dans une tradition élitaire qui ne récompense que les gens qui font recouvrer des fonds publics au trésor américain et qui laissent sur la route le reste. Nous, on voulait un modèle solidaire. Et pour le moment, les Européens sont sur cette idée. Nous ne voulons pas la rémunération du lanceur d'alerte parce qu'on a l'intérêt général et en plus au pourcentage, etc. On veut que tout le monde, que personne ne soit laissé au bord de la route. Donc on veut un modèle solidaire, une prévention en amont avec un référé conservatoire, une réparation intégrale des dommages sans plafond, une valorisation, je veux dire, au sens social, des lanceurs d'alerte, mais on ne veut pas ce système américain. Donc, quand les députés et les sénateurs français ont dit de manière désintéressée, c'était par opposition au modèle du reward de la rémunération américaine, mais c'était aussi l'idée, effectivement, qu'on ne souhaitait pas. Il y a eu autre chose, parce qu'il y en a un qui a dit, mais à ce moment-là, on écrit de manière financièrement désintéressée, mais il y en a un qui a dit aussi, oui, mais il y a la vengeance et il y a... bon, voilà, il y a le profit personnel et la vengeance, et on préférerait que ce soit désintéressé. Donc, pour replacer dans ce contexte global, si vous voulez, d'où est venu ce de manière désintéressée?
Alors, une question, et justement, vous parliez de Raphaël Allais, et ça me permet de relancer la discussion peut-être sur cette affaire. Alors, hein, on se rappelle, c'est une affaire qui se situe au Luxembourg. Une question qui me vient de la fin du documentaire, je ne sais pas si vous l'avez vu, dans la peau d'un lanceur d'alerte, qui est que Pricewaterhouse a été, a été interrogé, et sa réponse à l'entreprise, c'est « nous avons un référent pour les lancements de l'alerte ». Et alors, donc, c'est bien, c'est une entreprise luxembourgeoise, donc on va pouvoir parler au niveau européen, mais ouais. C'est aussi intéressant par rapport à ce cheminement de l'alerte. Finalement, cette entreprise a installé son référent à l'intérieur de l'entreprise Et pour autant, elle, alors je vais peut-être poser la question à Glenn Milo d'abord, mais pour autant, elle a attaqué ses deux salariés. Alors, comment vous voyez ça transposé en France, bien sûr, le cas d'Antoine Deltour. On a une entreprise qui a son référent. On a une alerte qui est lancée, je le rappelle, avec une prise de documents dans le système informatique de l'entreprise, donc de manière, en tous les cas, qualifiée par Price d'illégale. Comment on transpose ça avec cette loi Sapin ? On reviendra après sur la...
Malheureusement, j'imagine que ça risque de se passer de la même façon. Alors, je ne vais pas faire de procès d'intention générale, mais le choix du référent reste un enjeu. Et sa garantie d'indépendance reste questionnable. Un référent qui ne va pas être dans le rang peut aussi être remplacé. Il n'y a rien qui empêche de remplacer le référent tous les deux jours si vraiment il crée trop de problèmes. Donc, ça reste obligé de passer par un référent ou par la hiérarchie et ne pas permettre de passer par une autorité externe, ça reste un problème majeur pour moi.
Mais attendez, parce que c'est faux.
Mais de toute façon, sur les LuxLeaks, c'est même pas, on est au-delà de la question du référent. On est sur une situation dans laquelle vous avez un fonctionnement organisé, institutionnalisé, entre une entreprise qui fait du conseil et dont le cœur d'activité et de négocier des accords fiscaux avec l'administration fiscale luxembourgeoise. Donc de toute façon, que ce soit le référent interne à l'entreprise, vous pouvez le choisir comme vous voulez, mais c'est considéré comme le cœur de métier de cette branche de l'entreprise de faire ces accords fiscaux. Donc ce sera considéré comme une non-alerte parce qu'on est sur quelque chose qui est en contradiction avec l'activité même de l'entreprise. Et là, et j'ajouterais que dans ce cas-là même, l'alerte à l'autorité de contrôle ou à l'administration compétente qui est l'administration fiscale, qui est partie à ces accords, est aussi vouée à l'échec. Donc on est typiquement sur LuxLeaks dans le cas où il n'y a pas d'autre solution que d'aller dans les médias. Et ça met en lumière le fait que la nécessité d'une législation européenne. Pourquoi ? Parce que je disais qu'il n'y avait que 6 pays qui protégeaient les lanceurs d'alerte. Le Luxembourg en fait partie. Et le Luxembourg protège les lanceurs d'alerte pour des signalements, dans le cas de signalement interne, mais dans le cas d'un signalement aux médias, la protection tombe. Ce qui fait que, effectivement, ce qui a conduit à la condamnation, à la fois en première instance et en appel, de Deltour est allé. Et donc, on voit bien que là, on est...
Avec la reconnaissance du statut de lanceur d'alerte,
finalement, en cassation.
Avec la condamnation pour vol de documents.
Tout à fait. Donc, on est vraiment dans des situations où on est vraiment aux limites de l'exercice. Et c'est justement pour des cas comme ça, ces cas aux limites, où c'est pour ça qu'on s'est battu, et parce que c'est pour ça qu'il faut aller plus loin. On est dans ces cas aux limites où on est obligé de considérer que la divulgation dans les médias, la divulgation au public, est la seule solution. C'est la seule possibilité qui leur a été offerte. Et honnêtement, pour moi, dans ces cas-là, on est vraiment sur le choix du référent.
Même le tribunal de LuxLeaks a dit cela. Dans l'arrêt de la cour d'appel, effectivement, à propos de Deltour et de Halley, le tribunal dit on comprend parfaitement qu'il n'ait pas saisi le dispositif interne de Pricewaterhouse parce que c'est le modèle économique même qui était mis en question et on ne pouvait pas leur demander de le faire. Donc dans l'arrêt, je veux dire, il faut lire les arrêts de LuxLeaks parce que l'arrêt de la cour d'appel est absolument remarquable et le dernier arrêt, il y a chaque fois, je veux dire, il y a des éléments. Et donc, pour revenir à la France, pardon, parce que moi, j'ai quand même entendu des choses et c'est des choses importantes. En France, vous avez la procédure, effectivement, qui est le palier interne, mais avec trois personnes. Si dans un délai raisonnable, c'est-à-dire en général un mois ou deux, c'est pas traité, vous passez à l'autorité judiciaire ou administrative. Et si dans trois mois, c'est pas traité, vous passez à l'échelon. Mais vous avez un tas de procédures d'urgence et à deux paliers dans le droit français donc, qui sont là-dedans. Mais en cas de danger grave et imminent ou de risque de dommage irréversible, vous allez tout de suite où vous voulez, donc il y a une procédure d'urgence. N'oubliez pas que vous avez le droit de saisir le défenseur des droits tout de suite, qui ouvre un dossier et qui de toute façon suit tout ça. Donc vous avez des paliers, en même temps le défenseur des droits, la procédure d'urgence et le législateur. C'est-à-dire, le député, M. Denaja, a dit, c'est la dernière lecture dans l'hémicycle, et c'est un moyen de droit que vous pouvez invoquer devant les tribunaux, il a dit, si jamais le dispositif est inefficient, inexistant, en cas de compromission des hiérarchies, on ne demande pas au lanceur d'alerte de se suicider, il peut immédiatement saisir la voie externe, Et cette volonté du législateur peut être rappelée devant les tribunaux. Donc vous voyez, il a dit, nous rappelons que le législateur veut une souplesse des paliers. Donc les paliers ne sont pas bloqués. Et autre chose, l'AFA, l'Agence française anticorruption, a mis en ligne une note que vous pouvez consulter et qui dit « Il est par ailleurs admis que le signalement doit être directement adressé aux autorités judiciaires, administratives, etc. lorsque le lanceur d'alerte met en cause la direction et que le destinataire de l'alerte ne dispose pas a priori de l'indépendance nécessaire pour effectuer les vérifications. » Donc il y a déjà, avec cette loi Sapin 2, deux ou trois moyens de court-circuiter effectivement, tout à fait légalement, la procédure interne. Et si on revient au palier, c'est la jurisprudence.
Peut-être qu'il y avait une réaction de la part de Glenn Milo. Je suis désolé, j'essaye de distribuer un peu. Glenn Milo, vous aviez une réaction.
Oui, donc je ne voudrais pas qu'on vous assomme avec des détails de virgule, mais elles sont malgré tout importantes. Et effectivement, on a entendu, on a vu de Naja dire tout ça, mais les rédacteurs de l'Assemblée semblent ne pas l'avoir vu. Et la version du compte-rendu intégral des débats ce jour-là n'est pas la même que ce qui s'est dit. C'est-à-dire que le fait que le supérieur hiérarchique soit incriminé, ça a disparu du compte-rendu intégral. Donc le juge pourra voir l'intention du législateur, mais pas dans ce cas-là, puisqu'elle n'est pas écrite. Et l'autre point, c'est que pour passer du premier palier au deuxième, le délai raisonnable qui est attendu, il concerne le fait que l'employeur vérifie la recevabilité de l'alerte, pas qu'il effectue le traitement. Donc il peut effectivement dire que l'alerte est recevable et ensuite enterrer le dossier, ce qui reste un problème. Et là, il n'y a plus d'histoire de délai raisonnable.
Je pense qu'il faudra attendre effectivement un certain nombre de jurisprudences, mais de toute façon, en droit français du travail tel qu'il est, en cas de crime ou délit, vous pouvez tout de suite aller aux autorités. Si vous êtes salarié privé, vous pouvez tout de suite aller aux autorités judiciaires ou administratives ou rendre public. Si vous êtes agent public, vous pouvez tout de suite aller aux autorités judiciaires
administratives. Vous êtes même obligé.
Voilà. Vous pouvez.
Obligé. Donc, Virginie Rosière, vous, votre vision, puisque là, on voit bien, et c'est ce que vous disiez, Nicole-Marie Meyer, on va être obligé d'être un peu vigilant sur l'application de la loi. Est-ce que vous pensez que ces lois de protection, parce que c'est un petit peu toujours le problème qu'on entend, hein, c'est dire oui, mais alors si on protège les lanceurs d'alerte, alors c'est la porte ouverte à toutes les dénonciations, etc. On va voir tout et n'importe quoi, les gens vont être diffamés sans qu'on puisse rien faire. Alors, comment vous voyez ça, là, ces déclarations de principe,
oui, on l'entend
auxquelles
beaucoup.
Vous avez dû être confronté oui. dans les débats au Parlement?
On l'entend beaucoup, et on l'entend beaucoup des mêmes personnes, hein, c'est-à-dire celles qui n'ont pas forcément intérêt, ou en tout cas qui soutiennent les organisations qui n'ont pas intérêt à ce que l'alerte soit lancée. La diffamation existait avant qu'on envisage de protéger les lanceurs d'alerte, la calomnie aussi, les dénonciations calomnieuses aussi. Ça existait avant, ça existera après, c'est vrai, hein. La protection des lanceurs d'alerte, je vous le dis tout de suite, ne va pas faire disparaître la diffamation ou les dénonciations calomnieuses. Donc, mais ça n'a simplement rien à voir. La question, elle est celle de l'appréciation des faits qui sont en cause, encore une fois. Pas des personnes, des faits. Est-ce qu'on est dans un cas d'atteinte à l'intérêt général? Ou est-ce qu'on est dans des allégations qui sont fausses? Ou alors est-ce qu'on est, troisième cas, dans la révélation d'informations qui ne portent pas sur des atteintes à l'intérêt général et qui sont simplement la divulgation d'informations confidentielles à des fins qu'on laissera à chacun le moyen d'apprécier? Mais donc, soit vous êtes dans une alerte, atteinte à l'intérêt général, soit vous êtes dans de la diffamation, de la calomnie, ce sont des allégations qui sont fausses, soit vous êtes dans la divulgation d'informations confidentielles pour le simple fait de briser, avec un intérêt à briser la confidentialité. Mais je pense que la catégorisation, elle est assez facile à faire, et la protection des lanceurs d'alerte n'empêche en rien de continuer à établir une distinction entre ces situations qui, de toute façon, sont déjà décrites dans le droit, et le fait de protéger les lanceurs d'alerte ne change pas la qualification de ces différents agissements et ne change pas l'issue judiciaire qui est réservée aux différentes procédures. Donc ça, c'est un argument fallacieux qui voudrait laisser croire que parce qu'on va protéger les lanceurs d'alerte, on va d'un coup déchaîner les vocations de lanceurs d'alerte. Quand on voit, je pense que voilà, on a eu suffisamment de témoignages, quand on voit les preuves que ça constitue, les risques qui sont pris, le prix personnel qui est payé par les lanceurs d'alerte, alerte. Je pense qu'il faudra, il en faudra beaucoup en termes de protection pour arriver à inverser la tendance simplement. Ce que ça dit en creux, ça dit que oui, si on protège les lanceurs d'alerte, on va lever un certain nombre de freins à l'alerte. C'est vrai. C'est ce qu'on veut d'ailleurs. C'est exactement ce qu'on vise. Et ça, ça peut être un petit peu inquiétant. C'est vrai. Mais on parle de lever de freins à l'alerte pour des véritables alertes. Parce que c'est bien là que le bât blesse. Parce que si, évidemment, une des dénonciations calomnieuses ou des allégations diffamatoires, ça porte un préjudice, que ce soit aux individus ou aux organisations. Mais encore une fois, ça n'est pas le fait de protéger les lanceurs d'alerte qui va changer quoi que ce soit cette affaire. Donc on peut, après, évidemment, rentrer dans ce terrain-là, mais je pense que ça nous éloigne beaucoup de la réalité de notre objectif, qui, encore une fois, comme je vous le disais, est de lever un certain nombre de freins, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le prix personnel, humain, financier, je dirais même, quasiment intime, parce que c'est une mise en cause très forte, une remise en question de toute une vie, toute une existence, souvent de lancer l'alerte. Et ben ça reste une réalité, et que si on arrive un peu à l'atténuer, peut-être que justement on peut accompagner et aider tous ceux qui se retrouvent pris dans ce dilemme intérieur et qui font acte de courage en s'oubliant un petit peu pour privilégier l'intérêt général.
Alors peut-être pour rappeler un petit peu le fondement de cette protection des lanceurs d'alerte, en tous les cas par la Cour européenne des droits de l'homme, qui appuie cette protection des lanceurs d'alerte sur l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc je pense qu'il est bien de rappeler, par rapport à cette question de la délation, etc., ou de tout ce qui pourrait être transmis sur les réseaux sociaux, c'est que cet article 10, et je vous invite vraiment à le regarder, on le trouve sur Internet, est décomposé en deux parties. Le 10.1 qui dit qu'on a la liberté de s'exprimer, d'informer, de publier de l'information, bien évidemment. Et donc c'est à ce titre-là que la Cour européenne considère que la démocratie doit couvrir, protéger cette nécessité d'informer pour le bien de la population. Et un 10.2 qui dit, mais attention, vous ne devez pas enfreindre les lois, le secret militaire, etc., etc. Et donc, à chaque fois qu'il y a ce droit d'information, ce droit de publication, à chaque fois, sachez-le, il y a également cette mise en garde de l'infraction aux lois existantes. Et donc, je rappelle ça parce que c'est bien aussi quand vous avez des discussions, peut-être avec des gens sur la protection des lanceurs d'alerte et qu'ils vous disent ça, revenez à cet article 10 et comme ça vous aurez là aussi la possibilité de dire, mais ne dites pas n'importe quoi.
Vous avez raison, et c'est effectivement peut-être un des risques de mettre en place une protection, c'est de faire perdre de vue à des personnes qui auraient connaissance de faits qui voudraient les révéler, de s'assurer de ce que vous avez dit, c'est-à-dire que l'alerte est caractérisée par la qualité de la preuve. Et qu'avant de se lancer, autant effectivement on veut soutenir les personnes qui souhaitent se lancer dans cette démarche-là, et qui est une démarche, encore une fois, de courage, il est important de s'assurer qu'on ne se met pas en risque de manière inconsidérée, et de s'assurer justement qu'on possède et qu'on a les moyens d'apporter la qualité de la preuve à l'appui des faits qu'on dénonce. Parce que sinon, c'est effectivement se mettre soi-même personnellement en risque, avec peut-être effectivement toute la bonne foi et toutes les bonnes raisons de le faire, mais il y a un certain nombre de précautions à prendre, et c'est pour ça qu'une initiative comme la Maison des lanceurs d'alerte, ou comme le guide à l'intention des lanceurs d'alerte de Transparency, ou comme nous l'avons demandé dans le rapport que j'ai défendu, c'est-à-dire de la mise en place d'un réseau d'autorités nationales indépendantes pour potentiellement recueillir l'alerte, mais à tout le moins conseiller et aiguiller les lanceurs d'alerte pour leur éviter de se mettre de manière inconsidérée en danger, c'est quelque chose d'absolument essentiel, parce que ce serait totalement contre-productif de susciter, on va dire, des démarches qui ne seraient pas totalement étayées, totalement solides.
Alors j'ai une petite lumière rouge, donc il ne va pas nous rester beaucoup de temps. Est-ce que Glenn Milo, vous pouvez commencer justement à nous parler de ce projet de maison des lanceurs d'alerte, de comment ça fonctionne, quels sont les objectifs et quels sont les moyens que vous envisagez avec 21 associations, si je ne me trompe pas, de mettre en place, et comment vous envisagez de le faire fonctionner?
Alors, comment ça fonctionnera? Pour l'instant, elle n'est pas en activité. Et effectivement, elle vient du fait qu'on se disait que même si la loi était parfaite, un lanceur d'alerte a malgré tout besoin d'être guidé, ne serait-ce que pour définir si ces éléments de preuve sont suffisants pour qu'il puisse affronter ce qu'il aura de toute façon à affronter. Même si la loi le protège, c'est souvent par réparation et pas en anticipant. Donc, ce projet, initialement, avait pour but d'accompagner le lanceur d'alerte. Donc, quand on dit accompagner, ce n'est pas juste un accompagnement juridique et procédural, c'est fondamental, mais vous avez entendu un tas de témoignages cet après-midi. Il y a un accompagnement psychologique à prévoir, il y a un accompagnement média, apprendre le lanceur d'alerte à comment communiquer, comment se protéger aussi d'attaques en diffamation, donc trouver des moyens d'utiliser les bons messages, un accompagnement financier, si on est en moyen de le mobiliser. Et au-delà de cet accompagnement, comme on parle d'un terrain où la loi n'est pas parfaite, on souhaite lui confier également la poursuite d'un travail de plaidoyer pour améliorer la réglementation et la législation. Il reste un troisième point important qui est la formation des acteurs. Donc les acteurs, c'est d'une part le lanceur d'alerte, mais aussi les personnes qui pourraient être concernées par l'étude ou l'analyse d'une alerte en interne, ou en tout cas la mise en place de bonnes pratiques pour soit éviter qu'il y ait des alertes, ça ne veut pas dire les étouffer, mais faire en sorte d'avoir une détection précoce des dysfonctionnements, donc sensibiliser les administrations, les entreprises, les collectivités territoriales qui pourraient un jour ou l'autre être amenées à devoir composer avec un lanceur d'alerte. Donc il y a 21 organisations, donc associatives et syndicales, on a aussi des syndicats. C'est pas un nombre limitatif, on a d'autres personnes qui devraient nous rejoindre. L'idée, c'était pas forcément d'être le grand tout qui rassemble tout le monde, mais à la fois d'agréger une diversité de compétences, une diversité de regards, d'expertise sur des questions que nous, on ne maîtrisait pas forcément. Les questions de sécurité numérique, par exemple, ça, c'est des domaines sur lesquels on est sensibilisé, mais on n'a pas les compétences vraiment pour assurer une sécurité de la transmission de l'information et du stockage de l'information. Sur la question de l'investigation, vous voulez avoir des partenaires aussi avec des journalistes d'investigation, donc avoir des... On a le SNJ, par exemple, qui est partenaire. Donc, sans forcément développer l'expertise en interne, en tout cas, avoir un éclairage sur ce qui nous manque pour que la maison fonctionne de façon optimale. Maintenant, c'est un projet qui a démarré en 2015. On a été pris dans un tourbillon législatif qui a fait qu'on a dû mettre le projet en stand-by pendant 2 ans. On l'a repris cette année, enfin, début 2017, donc l'année dernière. On avance doucement, mais sûrement, et on a bon espoir de pouvoir la mettre en activité, soit cette année, soit l'année prochaine. Voilà.
Nicole Marie-Meyer, peut-être un mot complémentaire sur ce projet auquel vous participez.
En 2009, moi j'ai perdu mon poste en 2004, j'ai gagné en 2007-2008. En 2009, j'ai rejoint Transparency et je m'étais donné 3 buts. Une loi globale pour la France, une autorité indépendante, une maison des lanceurs d'alerte, pour la reconstruction de la personne jusqu'à ce qu'il puisse retrouver un emploi et refaire sa vie. Et grâce effectivement à la plateforme, enfin à la coordination des ONG, on a obtenu une loi qu'on va tous essayer d'amender pour les failles. Est-ce qu'on peut encore amender ? On a une autorité indépendante, le défenseur des droits, dont je crois tout le monde reconnaît la grande qualité du travail et la grande qualité du travail des équipes. Et il nous reste maintenant à construire effectivement une maison pour l'accompagnement moral, psychologique et financier des personnes. Et c'est vrai que c'est peut-être quelque chose que la société civile peut faire, parce que c'est quelque chose que dans beaucoup d'autres pays, la société a fait. Aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Afrique du Sud, depuis les années 77, hein, c'est parti des années 77, donc vous en avez. Et vous avez une maison des lanceurs d'alerte aux Pays-Bas qui est financée sur fonds publics par le Parlement, mais c'est la seule. Toutes les autres sont des fondations caritatives que la société civile a créées. Et pour terminer quelque chose, il faut savoir que toutes ces législations et toutes ces fondations, elles sont nées à la suite de centaines de morts et de tragédies. Hein, la vertu n'est pas spontanée, sauf en Suède. Mais je veux dire, la vertu n'est pas spontanée, c'est parce qu'il y a eu des centaines ou des milliers de morts que les législations ont surgi dans la douleur. Au forceps, c'est dans la douleur. Et nous sommes aujourd'hui, effectivement, à un moment important en France, parce que c'est vrai que les lanceurs d'alerte et leur pseudo-multiplication, c'est autant un symbole qu'un symptôme de la santé démocratique de notre société. Et le fait que cette loi soit passée, qu'elle soit passée sous pression de la société civile, c'est vraisemblablement aussi quelque chose est en train de se passer dans l'éveil de la responsabilité et vraisemblablement une forme de révolution culturelle. Et pour terminer de façon positive, On accompagne des lanceurs d'alerte, j'accompagne 35 lanceurs d'alerte maintenant depuis 2012. Tous les procès dans les trois dernières années ont été gagnés. Et le procès en cassation de Deltou, on verra aller. Vous aviez d'abord eu la décomposition, il n'était pas lanceur d'alerte quand il volait, mais après il était lanceur d'alerte. Et le procès en cassation, c'est on ne peut pas diviser, c'est l'indivisibilité du statut du lanceur d'alerte et des faits du lanceur d'alerte. Donc je trouve qu'il y a une évolution très positive et des victoires dues à la société civile.
Un dernier mot, Virginie Rosière.
L'entreprise se prolonge à l'échelle européenne, ce qui est, je pense, une nécessité parce que, je vous l'ai dit, je me félicite qu'on ait une protection en France, mais aujourd'hui, on voit que les scandales impliquent des multinationales qui ont une portée au moins européenne, pour ne pas dire mondiale, et donc, pour éviter ne serait-ce que des mécanismes d'optimisation législative, on a besoin d'un cadre protecteur en Europe, d'autant plus que très peu de pays aujourd'hui protègent les lanceurs d'alerte. C'est un premier pas avec ce rapport qui a été voté en octobre. On attend maintenant une réponse de la Commission européenne qui devait arriver ce mois-ci, qui a été repoussée au mois de mars, au 28 mars pour l'instant. Donc je nous appelle tous collectivement, vous pouvez compter sur moi en tout cas, c'est sûr, à la plus grande vigilance et à rester mobilisés parce que autant le Parlement européen a été volontaire et ambitieux, autant les États membres sont très réticents. Au rang des États membres qui sont aujourd'hui opposés à une législation européenne, il se trouve qu'il y a la France. Et donc la mobilisation qui nous a permis d'obtenir ce résultat au Parlement européen, je le dis vraiment très clairement, la mobilisation, le travail avec les ONG, la mobilisation de la société civile a été absolument essentielle dans le fait qu'on parvienne à ce résultat. Mais ce sera important de rester justement mobilisé, de continuer ce travail de plaidoyer, ce travail de pression auprès des institutions, parce qu'on est dans un moment où on a un climat qui est propice à des avancées, mais c'est par cette mobilisation continue qu'on va pouvoir arriver à le concrétiser. Il reste, on a un alignement de planète assez positif, donc il nous reste à peu près un an de travail utile, et je souhaite vraiment qu'on le mette à profit pour parvenir à des avancées réelles sur le plan européen. Je pense qu'on est en mesure d'arriver au moins à obtenir certains résultats.
Donc nous allons conclure sur cette notion de vigilance. Moi, je voudrais juste vous lire trois lignes. Parce que je pense que c'est vraiment un ouvrage qui est utile à tout le monde, alors j'en fais un peu la promotion. La protection de l'environnement et de la santé publique sont des sujets d'intérêt général qui exigent un niveau élevé de protection du droit à la liberté d'expression, donc à la protection des lanceurs d'alerte. Et donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que pour illustrer ça, il y a eu beaucoup de cas de gens qui ont transmis des informations qui ont été attaquées. Ces cas ont été jugés au plus haut niveau de la justice européenne par la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est vraiment illustrant de pouvoir en prendre connaissance. Il y a un petit abécédaire et c'est vraiment accessible à tout le monde. En tous les cas, merci d'être resté ici avec nous assez tardivement. Merci aux organisateurs, merci à tous les techniciens et à toute l'organisation de la salle, parce que je sais que c'est beaucoup de travail et beaucoup d'attention pour tout ça. Merci encore et merci pour la qualité.
Merci à vous.